Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Micro Rebelle pour cette nouvelle chronique Vive la Commune. Ce premier volet est enregistré le jeudi 18 mars 2021, soit 150 ans après le début de la Commune de Paris. La Commune de Paris a duré 72 jours, du 18 mars, début de l'insurrection avec le retour des canons à la butte Montmartre, jusqu'au 28 mai, fin de la semaine sanglante, durant laquelle des milliers de communards et communardes sont exécutés sans jugement par les troupes de Versailles. Ainsi, cette chronique Vive la Commune se poursuivra chaque semaine jusque fin mai et abordera différentes thématiques autour de la Commune de Paris. Par exemple, la place des femmes, l'éducation, les aspects économiques, les communes en dehors de Paris, la postérité de la Commune, etc. Et puis nous nous efforcerons chaque semaine d'établir des passerelles entre la Commune, il y a 150 ans, et notre réalité d'aujourd'hui, la réalité de nos luttes. Ces dernières années, parallèlement à l'affaiblissement du mouvement social, le souvenir, la connaissance de la Commune de Paris ont décliné. Ceci étant, à diverses occasions, la Commune continue à être invoquée. Par exemple, lors de Nuit debout en 2016, ou encore dans les ZAD, les zones à défendre. Durant le mouvement des Gilets jaunes, plusieurs affichages sur les murs ou sur des pancartes se sont référés à la Commune. Et puis, à l'étranger, le soulèvement au Rojava ou au Chiapas, s'appuyer sur l'expérience de la Commune de Paris. Nos chroniques « Vive la Commune » sur Micro Rebelle, à l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris, s'inscrivent donc dans une volonté de faire connaître ce qu'a été la Commune de Paris et en quoi elle nous permet de réfléchir aux luttes que nous menons aujourd'hui. Plusieurs magazines se sont emparés de cette date anniversaire des 150 ans pour nous proposer des éditions spéciales consacrées à la Commune de Paris. On peut citer Politis, Alternative Libertaire, ou encore les Utopiques. C'est justement à cette revue, les Utopiques, que nous nous intéressons aujourd'hui. Les Utopiques, c'est, je cite, « un cahier de réflexion de l'Union syndicale solidaire ». Le numéro de ce printemps 2021, sur 300 pages, est consacré, je cite toujours, à la Commune de Paris, mémoires et horizons. Il est composé de nombreux articles qui abordent chacun un aspect de la Commune de Paris. Et pour cette première chronique, sur Micro Rebelle, nous nous sommes intéressés à un article signé Gérard Gourguechon à propos des discours, des écrits de celles et ceux qui habituellement avaient la parole à cette époque de par leur statut d'écrivain ou d'intellectuel. C'est assez édifiant. À l'époque, pas de radio, ni d'écran, ni de réseaux sociaux. C'est donc prioritairement par l'écrit que se véhiculaient les idées. Et c'est donc par l'écrit que, je cite Gérard Gourguechon, les communards et communardes ont été combattus et massacrés par celles et ceux qui contribuent à faire l'opinion. Extrait. Le soulèvement de la Commune de Paris représente pour tous les écrivains ce qu'ils détestent le plus, la canaille, la populace, les voyous. Mais presque tous les écrivains refusent une explication politique ou sociale de l'événement. Ce n'est donc ni une lutte politique, ni une révolution sociale. C'est l'œuvre d'un petit groupe de brigands, de barbares, ayant préparé leur coup depuis longtemps, qui ont profité de la surexcitation de la population parisienne, provoquée par le siège et la défaite, pour s'emparer de la ville et la livrer à l'anarchie. Par exemple, Théophile Gautier, célébré de son vivant pour ses poèmes, ses romans, ses contes et ses nouvelles, et toujours à la recherche du beau, comme il aimait à s'afficher, n'était pas une grande âme pour autant. Il écrit par exemple
« Il y a sous toutes les grandes villes des fosses aux lions, des cavernes fermées d'épais barreaux où l'on parque les bêtes fauves, les bêtes puantes, les bêtes venimeuses, toutes les perversités réfractaires que la civilisation n'a pu apprivoiser, ceux qui aiment le sang, ceux que l'incendie amuse. Un jour, les animaux féroces se répandent par la ville épouvantée avec des hurlements sauvages. Des cages ouvertes s'élancent les hyènes de 1793 et les gorilles de la Commune. »
C'était donc Théophile Gautier. Autre exemple, autre écrivain, Maxime Ducamp, qui écarte lui aussi les causes politiques pour expliquer la Commune. Il s'agit, selon lui, je cite, « un accès d'envie furieuse et d'épilepsie sociale ». Ou encore «
plus tard, lorsqu'on verra dans son ensemble toute cette commune, on reconnaîtra que la politique n'y fut pour rien. les uns et les autres ont obéi aux impulsions de leur perversité. Mais la question politique était le dernier de leurs soucis.
L'article de la revue Les Utopiques précise d'ailleurs « L'histoire de la Commune de Maxime Ducamp lui a valu d'être élu à l'Académie française en 1880. » Autre exemple, George Sand, qui était pourtant socialiste et républicaine en 1848 et qui va cependant condamner la Commune, traitant les communards de partis d'exaltés, de règne des plus furieux. Elle écrit par exemple en avril 1871, soit au cœur du déroulement de l'insurrection.
La Commune est le résultat d'un excès de civilisation matérielle jetant son écume à la surface un jour où la chaudière manquait de surveillants. La démocratie n'est ni plus haut ni plus bas après cette crise de vomissement. Ce sont les Saturnales de la folie.
Et ainsi, Georges Sand s'affichera en soutien à Adolphe Thiers, le bourreau de la Commune. Pour tous ces écrivains, il s'agit de démontrer que l'événement ne découle pas de causes objectives et qu'il existe des éléments externes qui viennent tout expliquer. Pour ce faire, les acteurs et actrices de la Commune vont être copieusement dénigrés et niés, les dirigeants, la populace, les femmes, les étrangers. C'est ainsi que l'écrivain Jean Richepin fait le portrait de Jules Vallès.
Eh bien, ces chefs ambitieux ou convaincus, charlatans ou prophètes, ont presque tous un point commun, c'est qu'ils étaient déclassés. Ce fut un soulèvement des déclassés et un gouvernement de fruits secs.
Alors on peut signaler que cet écrivain, Jean Richepin, sera lui aussi élu à l'Académie française. Alphonse Daudet, de son côté, fait lui aussi le portrait de Jules Vallès.
On devine le rire amer, les yeux pleins de bile de l'homme qui a eu une enfance malheureuse et qui en veut à l'humanité parce que, tout petit, il a porté des habits ridicules taillés dans les redingotes de son père.
Autre acteur de la Commune, Gustave Courbet, le peintre. Alors, qu'en pense le comte de Lille ?
L'infect barbouilleur Courbet mériterait d'être fusillé.
Alors le comte de Lille, lui aussi, sera reçu à l'Académie française. Citons encore la comtesse de Ségur.
Ils ont bu tant de vin et d'eau de vie pendant leur règne de bandits que la moindre blessure devient gangréneuse.
Alors, par ailleurs, les communardes, ainsi que les étrangers, sont particulièrement l'objet d'attaques virulentes, avec toujours le même refus de motivation politique ou sociale. Il s'agit d'êtres perverses, donc on parle des femmes, hein, recherchant la satisfaction de leurs appétits sexuels. Leur but est le communisme sexuel, le règne de la licence et de l'obscénité. La femme, être faible et dépendant, cherche aussi à prendre sa revanche sur l'homme en le dépassant dans le mal. La communarde est héroïque parce qu'elle est fanatique, farouche, excitée par la vue du sang et de la mort. Concernant les étrangers, on peut citer Taine, qui voit des étrangers partout. Environ 100 000 insurgés aujourd'hui, dont 50 000 étrangers. Taine entrera à l'Académie française en 1878. Alors pour tous ces écrivains, le seul remède ne pouvait être que la répression. Et c'est ainsi qu'ils saluent la Semaine sanglante. Par exemple, Edmond de Goncourt, le 31 mai 1871, soit 3 jours après les derniers massacres.
C'est bon. Il n'y a eu ni conciliation ni transaction. La solution a été brutale. Ça a été de la force pure. La solution a redonné confiance à l'armée qui a appris, dans le sang des communeux, qu'elle était encore capable de se battre. Enfin, la saignée a été une saignée à blanc. Et les saignées comme celle-ci, en tuant la partie bataillant d'une population, ajournent d'une conscription la nouvelle révolution. C'est 20 ans de repos que l'ancienne société a devant elle.
Alors, au-delà de Edmond de Goncourt, Gustave Flaubert, qui estime même que les verdicts de Versailles sont trop cléments.
Je trouve qu'on aurait dû condamner aux galères toute la Commune et forcer ces sanglants imbéciles à déblayer les ruines de Paris, la chaîne au cou, en simple forçat.
Enfin, on peut citer Georges Feydeau.
Ce que je veux, ce qu'il me faut, et tout de suite, c'est un bâton. Un fouet terrible, bien coupant, manié par une main ferme et qui déchire, sans relâche ni pitié, tous les gredins, tels que les socialistes de toutes les couleurs, de vouloir faire le bonheur de l'humanité.
Dans tout ce tableau, l'article de la revue Les Utopiques signale cependant qu'à l'époque, une poignée d'écrivains a sauvé l'honneur de la corporation, avec en particulier Victor Hugo, Villiers de l'Isle-Adam, Verlaine et épisodiquement Arthur Rimbaud. Nous allons revenir sur cet article des Utopiques, qui fait un parallèle avec notre époque, juste après la pause musicale. On écoute « La commune est en lutte », un texte de Jean-Roger Caussimon, interprété par Dominique Grange.
Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la Butte et le bois de Meudon. On les cueillit en des temps plus faciles. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades, des Versaillais infâmes approchent de Paris. Je t'ai dit avec toi, je vais aux barricades. La place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres en dernière culbute d'une balle en plein front, sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères. Malheur à qui nous vole en nous avilissant. Le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets, les tyrans étaient en plus grand nombre. Il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. Sans verser, la liberté va naître. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. De notre sang versé, la liberté va naître. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs.
Nous sommes toujours sur Micro Rebelle avec le premier opus de notre chronique Vive la commune. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de la revue Les Utopiques de l'Union syndicale solidaire à partir d'un article consacré aux écrivains de l'époque mobilisés contre la commune. L'auteur de l'article, Gérard Gourguechon, ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec notre époque concernant l'attitude des médias face aux mouvements sociaux. Avec un exemple significatif, le mouvement des Gilets jaunes. Extrait. En 2018-2019, une des fonctions des éditorialistes de renom aura été, tout comme les écrivains bien en cours en 1870, de nier toute idée de révolte sociale, pouvant se justifier par exemple par le développement énorme des inégalités. Leur discours s'efforcera de décrédibiliser celles et ceux qui s'opposent à l'ordre établi. Yves Calvi, qui à l'époque officiait notamment sur Canal+ et sur C8, va s'emporter très rapidement dans sa séquence « L'info du vrai ». Il va nous parler de bordel et d'escroquerie intellectuelle. Le 2 février 2019, sur Canal+, il explique.
Car le vrai visage du mouvement des Gilets jaunes est clairement apparu ce week-end en 3 étapes. La haine du juif, en menaçant l'académicien Alain Finkielkraut, la haine des femmes, en agressant Ingrid Levasseur, et la haine du flic, dernier rempart de la démocratie. Tout est dit, et ceux qui voudront faire la différence entre les bons et les méchants sont désormais tous complices.
Ainsi, termine Gérard Gougochon, tout est dit par Yves Calvi. Les gilets jaunes sont tous des méchants, et ceux qui pensent le contraire sont leurs complices. Et la tonalité est la même avec Jean Quatremer, correspondant de Libération à Bruxelles.
C'est la réalité. Casseurs, violents, anti-républicains, antisémites, homophobes, l'os de ce mouvement. Je précise, un mouvement de bof, poujadiste, factieux et rouge-brun, la totale quoi.
Autre exemple, avec Renaud Dely, journaliste habitué des plateaux de télévision et de radio. Par exemple avec ce tweet.
Et dire que pendant que cette vermine parade chaque samedi, il est encore des idiots utiles des gilets jaunes qui fantasment un prétendu régime policier.
Et enfin, Jean-Michel Apathy sur Europe 1.
Le mouvement des gilets jaunes régresse. C'est un mouvement qui tourne en rond et qui ne produit plus de sens. Tout et n'importe quoi a été revendiqué. Et puis, on en est arrivé au référendum d'initiative citoyenne, ce qui est la promesse d'un désordre total, absolu et permanent dans la société. Sans oublier la violence, parce qu'encore samedi à Angers et à Avignon, il y a eu des violences qu'il faut condamner, à chaque fois parce qu'elles sont tout le temps inacceptables.
Voilà, nous nous arrêterons là, en concluant, comme Gérard Gourgochon et la revue Les Utopiques, toutes ces interventions à l'encontre des Gilets jaunes et des mouvements sociaux, en 2018-2019, m'ont rendu la commune encore plus respectable et plus émouvante. Allez, malgré les vents mauvais, c'est l'occasion de se fredonner la vieille chanson « La commune n'est pas morte ». Merci à toutes et à tous d'écouter Micro Rebelle. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour le deuxième opus de cette chronique « Vive la commune ». D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye.